RFI, 21h à Paris, 20h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir. À la une de ce journal, l'ONU fait part de son inquiétude après la coupure par Israël de l'unique ligne électrique qui approvisionnait encore Gaza. Ce lundi, une délégation israélienne est attendue au Qatar pour des négociations sur la poursuite du cessez-le-feu. La Russie accuse deux diplomates britanniques d'espionnage et leur donne 2 semaines pour quitter le territoire. Le Royaume-Uni est l'un des principaux soutiens militaires et diplomatiques de l'Ukraine. Et puis en France, le gouvernement présente son 3e plan national d'adaptation au changement climatique. 52 mesures pour protéger davantage les populations qui ne convainquent pas tout le monde. L'autorité palestinienne dénonce une escalade dans le génocide des habitants de la bande de Gaza. Les Israéliens ont coupé l'unique ligne électrique qui fonctionnait encore avec le territoire palestinien, déjà privé d'aide humanitaire. Amnesty International condamne une décision cruelle et illégale. Berlin parle d'un risque de pénurie alimentaire. Et l'ONU fait aussi part de son inquiétude. Jérémy Lange.
Sans électricité et avec le carburant bloqué, les dernières usines de dessalement d'eau, les centres de santé, les boulangeries de Gaza risquent de fermer, alerte le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. La principale usine de dessalement fournissait de l'eau à 600 000 personnes à Gaza, rappelle Philippe Lazzarini, le commissaire général de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.
L'électricité n'a été rétablie qu'il y a quelques jours. Jusqu'à maintenant, les gens utilisaient plutôt des générateurs au diesel pour en avoir. L'impact d'un blocus de l'aide alimentaire m'inquiète beaucoup plus, ou si l'eau était coupée. Et de fait, il n'y a plus de nourriture ni d'essence qui rentre à Gaza désormais.
Et en parallèle, Tel Aviv tente à tout prix de convaincre des agences de l'ONU de prendre le relais de l'UNRWA, officiellement banni par Israël. Une tentative vaine, explique Philippe Lazzarini.
D'autres agences peuvent faire rentrer des camions d'aide à Gaza, mais la vraie question, c'est qui va fournir des soins médicaux, de l'éducation. Et si je nous compare, les autres agences de l'ONU ne pèsent pas plus de 5% de notre présence.
Et une présence réduite comme peau de chagrin à cause des lois anti-UNRWA passées au Parlement israélien au début de l'année. Depuis la fin janvier, l'agence ne peut plus compter que sur son personnel palestinien, encore plus soumis aux intimidations et aux menaces de l'armée israélienne, d'après Philippe Lazzarini. Jérémy Lange, Genève, RFI.
L'objectif du gouvernement israélien est de faire pression sur le Hamas alors qu'une délégation israélienne est attendue ce lundi à Doha, au Qatar, pour des négociations sur la poursuite du cessez-le-feu. Un cessez-le-feu encore violé aujourd'hui. Israël a indiqué avoir procédé à de nouvelles frappes aériennes dans la bande de Gaza. Le gouvernement syrien annonce que l'opération contre les fidèles du régime déchu de Bachar al-Assad dans le nord-ouest du pays est terminée. Nos forces ont atteint tous les objectifs fixés, indique le ministère de la Défense. Bilan, 1500 Syriens tués, dont 1 millier de civils, en grande majorité des Alaouites. Le nouveau pouvoir d'Ahmad al-Shara semble avoir été débordé par des milices qui se sont livrées à des règlements de compte et des massacres confessionnels. Et parmi ces milices, certaines sont proches de la Turquie. Alors, comment expliquer ce bain de sang? Le chercheur spécialiste des Alaouites, Agri Adranem, était l'invité d'Anne Kantner dans RFI Midi.
Il y a deux récits aujourd'hui. Il y a le récit géopolitique. Quel est le rôle de la Turquie, dont on voit effectivement la présence grandissante et la proximité avec le nouveau pouvoir. Ça, c'est un récit. L'autre récit, c'est le récit du terrain. C'est des violences qui sont quand même aussi localisées dans le contexte syrien, où visiblement, le nouveau pouvoir n'a pas su, jusqu'à maintenant, accorder une priorité assez importante au sujet, justement, de la conciliation. Parce que les luttes entre factions radicalisées, d'un côté loyaliste pro-Assad, de l'autre islamiste très radical, c'est une réalité très sanglante, des centaines de civils alaouites morts ces derniers jours, mais qui montre aussi une réalité sous-jacente qui est tout aussi grave et durable, celle de la division, en fait, et de la division sur des lignes confessionnelles qu'on voit aujourd'hui en Syrie.
Le chercheur Agri Adranem. Ce lundi, Amnesty International appelle la Syrie à autoriser une enquête internationale sur ces violences. Les pires depuis l'arrivée au pouvoir le 8 décembre dernier d'une coalition dirigée par les islamistes. Volodymyr Zelensky est à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le président ukrainien doit rencontrer le prince héritier, Mohamed Ben Salman, mais c'est demain que les responsables ukrainiens et américains doivent se rencontrer pour parler fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Cette réunion sera la première depuis la visite catastrophique de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, visite pendant laquelle il avait été violemment pris à partie par le président Trump et son vice-président. Depuis, Washington a suspendu son aide militaire et son partage de renseignements, et Volodymyr Zelensky tente de recoller les morceaux. Kiev devrait proposer une trêve dans les airs et en mer avec Moscou, une idée jugée prometteuse par le secrétaire d'État américain Marco Rubio, lui aussi en Arabie Saoudite. La Russie expulse deux diplomates britanniques qu'elle accuse d'espionnage. Ils ont 2 semaines pour quitter le territoire. Les affaires étrangères britanniques dénoncent des accusations malveillantes et infondées. Les relations entre Londres et Moscou sont très tendues depuis l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Le Royaume-Uni est l'un des principaux soutiens militaires et diplomatiques de l'Ukraine. À Londres, Emeline Vin.
Les deux Britanniques, un diplomate de 34 ans et l'épouse d'un autre diplomate, auraient fourni des informations erronées sur leur demande de visa et participé à des opérations d'espionnage selon la Russie. Mais leur expulsion intervient 3 jours après que 3 ressortissants bulgares ont été jugés coupables à Londres d'espionnage au Royaume-Uni au profit de la Russie. En somme, ce renvoi serait une réponse directe au démantèlement du réseau. Londres et Moscou s'adonnent régulièrement à ce genre de représailles. Rien que l'année dernière, 7 diplomates britanniques ont été expulsés de Russie, à chaque fois pour des accusations d'espionnage jugées sans fondement par le Royaume-Uni. Il y a aussi le contexte plus large. Ce sont les premières expulsions depuis le début des discussions de paix et du rapprochement diplomatique entre la Russie et les États-Unis. Discussion dont le principe est rejeté par le Royaume-Uni car elle n'inclut pas Kiev. Outre la promesse d'augmenter ses dépenses militaires, le Premier ministre Keir Starmer appelle ses alliés à envisager l'envoi de troupes en Ukraine pour dissuader Moscou de continuer son invasion. Emeline Van Londres, RFI.
Dans le nord de l'Angleterre, au large des côtes du Yorkshire, collision ce matin en mer du Nord entre un pétrolier à l'ancrage, bâton pavillon américain, et un cargo porte-conteneur appartenant à une entreprise allemande. Bilan, au moins 32 blessés, un incendie et un risque de marée noire. La ministre britannique des Transports a fait part de sa préoccupation et l'ONG Greenpeace qu'elle a expliqué qu'elle suivait de très près les informations sur la collision. Calin Georgescu fait appel. En Roumanie, la candidature du politicien d'extrême droite pour la présidentielle du mois de mai a été rejetée hier par la commission électorale. Calin Georgescu, qui était arrivé à la fin de l'année dernière en tête d'un premier tour de présidentielle ensuite annulé, a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle qui se réunit demain à 15h, temps universel. Le gouvernement français a présenté ce matin son 3e plan national d'adaptation au changement climatique, le PNACC. 52 mesures pour protéger davantage les populations, mieux anticiper les risques et améliorer la résilience des territoires. Mais les observateurs ne sont pas entièrement satisfaits. Pauline Glaise.
Se préparer à l'augmentation des incendies, adapter les conditions de travail en obligeant les employeurs à faire davantage de prévention ou encore protéger la population des risques naturels en montagne, voilà quelques-uns des grands objectifs fixés par ce plan. Élise Nakarato d'Oxfam salue la présentation d'un plan d'adaptation, mais reste sur sa fin.
C'est très bien que la question de l'adaptation soit portée par le gouvernement. Mais malheureusement, en fait, le plan national d'adaptation au changement climatique, il s'arrête au milieu du gué. Il dit la direction où il faut aller, mais il ne donne pas les moyens d'action ni la forme de mise en œuvre.
Autre point clé, le financement. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a insisté sur l'intérêt économique de s'adapter. Mais Vivian Despoest du think tank I4C craint que le compte n'y soit pas.
On ne dispose pas de chiffres du besoin total de combien il aurait fallu, tout sujet confondu. Mais pour prendre qu'un seul exemple, elle a annoncé 30 millions d'euros pour la prévention du risque de retrait gonflement des argiles et les différentes propositions qui étaient sur la table citaient plutôt l'ordre de grandeur de 100 millions.
Il salue en revanche la volonté de donner une valeur juridique à la trajectoire, la hausse de température de référence prise en compte pour l'adaptation. Une fois actée, cette trajectoire devrait par exemple avoir un impact sur les plans locaux d'urbanisme.
Pauline Glaise, fin du blocage de Sciences Po Strasbourg dans l'Est de la France. Les étudiants qui étaient mobilisés depuis le mois de janvier demandaient la fin du partenariat avec l'université israélienne Reichmann, qu'ils accusent de soutenir la politique du gouvernement israélien à Gaza. Le blocage a donc pris fin ce lundi. Les étudiants ont obtenu la promesse de faire passer le partenariat devant un comité d'examen. Toujours en France, forte hausse des plaintes pour violences sexuelles dans les transports en commun, plus 86% en un peu moins de 10 ans. L'an dernier, en 2024, près de 3400 victimes ont été enregistrées par la police et la gendarmerie. C'est 6% de plus que l'année précédente et 86% de plus qu'en 2016, selon les chiffres d'une étude de l'Observatoire de la mission interministérielle pour la protection des femmes. Des femmes qui représentent 91% des victimes. 99% des personnes mises en cause sont des hommes. À Paris, en Ile-de-France, une enquête de la RATP montre que 7 femmes sur 10 ont été victimes de ce type de violence dans les transports franciliens. RFI, 21h10 à Paris.